Nous y voilà, sur les terres du 7e continent et en pleine nuit de la faune. Mais voilà, les incantations de Prince Rama nous ont ramenés sur des terres plus ou moins fermes. Et la nuit de la faune, encore ruisselante, s'apprête à traverser des marais et marécages qui bouillonnent à chaque pas. Le mieux serait encore de raser de près les eaux dormantes avec la libellule d'acier de David Huitspritz. La belle a affaire. Mais avant tout, observez un léger temps d'arrêt, avec à la loupe une sortie de l'état larvaire, ouverture éclair de la chrysalide avec l'entomologiste Jean-Yves Meunier, chercheur à l'IRD, et une lecture de Jean-Henri Fabre, où l'art est la manière de déployer ses ailes.
La porte de sortie est franchie. Abandonnée toute béante, semblable au trou pratiqué par une grosse vrille.
Il y a une fonte, une lisse quoi, totale. Notamment chez les coléoptères ou chez les mouches, par exemple, on voit bien qu'un asticot et une mouche adulte, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est le même individu. Quand l'asticot se transforme en mouche, c'est la même bête, hein, c'est le même individu, mais en fait, ces tissus vont être refondus complètement pour former un individu qui va être complètement dissemblable. Entre cette larve et la forme adulte, ça n'a plus rien à voir du tout.
Quelque temps, la larve erre dans le voisinage, à la recherche d'un appui aérien. Menu broussaille, touffe de thym, chaume de graminée, brindille d'arbuste. C'est trouvé.
Cette fonte des tissus, elle va se faire au niveau de la chrysalide, hein, c'est cette étape-là qui est entre les deux. Alors suivant les ordres, on va dire que c'est une pupe, une chrysalide ou une nymphe. Bon, c'est, le mot change, mais c'est la même chose. Hein. C'est toujours cette étape intermédiaire entre la larve et l'adulte. C'est très intime, quoi. Tout ça, ça va se faire à l'intérieur de cette chrysalide. Les tissus, quand on les analyse, si on les découpe en cours de métamorphose, on se rend compte que c'est comme une bouillie. En fin de métamorphose, en effet, si on ouvre un cocon, on peut voir déjà tous les appendices formés. Les pattes, les ailes, des ébauches d'ailes, hein, souvent c'est des ébauches. Et donc, au bout d'un moment, en fonction du climat, de la température, de plein de choses, hein, l'insecte va décider de sortir.
Le mésothorax se fend le premier, sur la ligne médiane du dos. Les bords de la fente lentement s'écartent et laissent voir la couleur vert tendre de l'insecte. Presque aussitôt, le prothorax se fend aussi. La scissure longitudinale gagne en haut l'arrière de la tête et en bas le métathorax sans se propager plus loin. En travers et au devant des yeux, l'enveloppe crânienne se rompt et apparaissent les stémates rouges. La partie verte mise à découvert par ces ruptures se gonfle et fait hernie, surtout sur le mésothorax. Il y a là de lentes palpitations, des gonflements alternatifs dus à l'afflux et au reflux du sang. la décortication fait de rapides progrès. Les ailes se gonflent d'humeur. Chiffonnée encore, elle ressemble à des moignons courbés en arc.
Cet exosquelette, il est tout mou, ce qui lui permet d'ailleurs de... Souvent, notamment des ailes, elles vont se déployer.
Les ailes, jusqu'ici condensées en épais moignons, se redressent, se déploient, s'étalent par l'afflux du liquide qui les gorge. Les ailes sont lourdes, humides, hyalines, avec les nervures d'un ver tendre.
Puis il va rester à sécher pendant quelques heures, ça peut être plus long.
Le prothorax et le mésothorax sont à peine nuagés de brun. Tout le reste du corps est d'un vert pâle, blanchâtre par place.
Va se rigidifier et donc l'insecte va avoir sa forme parfaite. On dit qu'il devient un imago, la forme imaginale, c'est l'insecte parfait.
L'arrachement est terminé.
Janvier 2027. Le professeur Otomo et son équipe découvrent un alliage métallique léger et indestructible s'il reste d'une taille inférieure à 1 décimètre. D'abord destiné à la chirurgie, puis à la robotique, ce métal pouvant être aussi tranchant qu'un laser est appelé Masamune L501, en référence au célèbre forgeron japonais. Dans le but de réguler certains écosystèmes, le professeur Otomo, assisté du chercheur Maetel, crée un prototype d'insecte robot avancé et autonome. 150 modèles de libellules mécaniques sont ensuite produits, des étoiles d'acier sous un ciel de pleine lune. À la tombée de la nuit, la libellule mécanique est plus discrète que le jour. Avec 80 mm de long et 120 mm d'envergure, c'est principalement sa teinte métallique et le son de ses ailes qui la distingue de son équivalent organique. Sa tête est légèrement moins arrondie et son poids est bien plus conséquent puisqu'il approche les 25 grammes. Ce qui ne l'empêche pas de pouvoir voler jusqu'à 250 km/h. Pour recharger ses batteries, la libellule d'acier capte les rayons du soleil reflétés par la lune à l'aide des cellules photovoltaïques montées sur ses ailes. Cette opération n'étant possible qu'à l'arrêt, l'anisoptère mécanique choisit un élément proche de ses propres teintes pour se poser. Ici, un tronc d'arbre cendré. Il ne s'agit pas d'un instinct animal, mais d'un réplica. Lorsque l'énergie est pleinement emmagasinée, la libellule vérifie le fonctionnement de ses ailes par des vibrations à différentes fréquences. Ces variations s'effectuent sous forme de mélodie. Écoutez. Chaque modèle développe son propre chant, appelé mélodonate. Les attaques et les ruses du caméléon ne fonctionnent qu'avec les êtres organiques. Lorsqu'elle est prise pour cible comme un véritable anisoptère pourrait l'être, la libellule d'acier suit son programme comportemental. Repérer et éliminer certaines espèces dans un rayon de 100 mètres. Ses capteurs déployés, l'insecte artificiel analyse le périmètre. L'ordre de ces proies est défini selon leurs facteurs biotiques et leur position. Détecter les phéromones dégagées par la peur fait également partie de ses capacités. L'anisoptère mécanique n'a pas d'arme. C'est une arme. Tranchante. Acérée. Contrairement aux expériences en laboratoire, in situ, l'insecte régulateur élimine toutes les espèces. Il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'une percée. Lorsqu'elle est prête, place nette. Est terminée, la libellule d'acier s'installe dans un endroit humide face au vent. Pour nettoyer sa structure des diverses substances de ses cibles, l'anisoptère condense une petite partie d'eau contenue dans l'air et vaporise l'ensemble de son mécanisme. Contrairement aux libellules organiques, l'insecte d'acier peut replier ses ailes. surprise par une vague de la marée montante, l'anisoptère mécanique est emporté. Soit capable de résister au milieu aquatique pendant près d'une minute, la libellule artificielle ne sait pas nager. Sur le dos, ces trois paires de pattes cherchent désespérément un point d'accroche. Reflète dans la nappe d'eau qui l'entoure. L'anisoptère semble se noyer dans le ciel. La libellule d'acier est incapable de reconnaître ses semblables s'ils sont désarticulés. Bien qu'elle se soit de nombreuses fois posée sur ce tas de cadavres mécaniques. Ce lieu est pour l'anisoptère artificiel un piège naturel. Il ne s'agit pas d'un cimetière, mais d'une casse.
MagnetoFox vous a présenté La Libellule d'acier. Écrit, composé et réalisé par David Huist-Pruist, interprété par Renaud Essem.
Qui l'a tué?
Je l'ai trouvé comme ça.
Est-ce qu'il y a d'autres animaux morts dans notre maison?
Non.
Pour garder un animal mort dans une boîte, il faut vraiment être complètement givré.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué dans sa maison. Accompagne-nous.
Attends un peu, dis-moi au moins ce qui s'est passé.
Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que cette chose a tué le docteur.
Quelle chose? Tu n'es pas très clair.
Eh bien, c'est comme une sorte de matière informe qui n'arrête pas de grossir.
Je t'en prie, Steve, sois plus explicite.
Oui, je sais. Je t'assure qu'il faut que tu vois cette chose pour que tu puisses croire ce que je dis.
Tu penses peut-être nous faire croire que tu as vu une sorte de monstre?
Oui, c'est possible. J'en sais rien.
Une seconde. Qu'est-ce qui te prend, Steve? Tout à l'heure, tu conduisais en marche arrière, et maintenant tu imagines des monstres.
Vous écoutez en ce moment la voix du futur. Ceci est un dernier exposé de la situation, qui est le résumé de ce que vous savez déjà. Efforcez-vous d'y croire. Selon votre comportement, nous pourrons ensuite déterminer si des êtres humains qui n'ont pas subi d'entraînement préalable peuvent résister à la tension physique et psychologique d'un internement de longue durée sur une surface réduite, complètement coupée de la Terre.
Je vais contourner le lobe antérieur de votre cerveau pour agir directement au niveau de la moelle.
Thank you.
Si vous avez réussi, jusqu'ici, à traverser cette grande étendue marécageuse et bouillonnante, sans vous faire dévorer ni cru ni cuit, alors tendez les oreilles, narines et naseaux à l'affût du moindre frémissement de l'air. Car les yokai sont vraiment dans leurs assiettes. Des histoires de fantômes un peu soupolets et autres perles du Japon à venir sous peu. Redoublez de prudence aussi, car Screamin' Jay Hawkins et ses marmitons font chauffer leur chaudron dans les environs. Il nous livre, à gorge déployée, tous les secrets de son alligator wine. Une recette d'envoûtement chaude comme la braise, facile et simple à réaliser à partir d'ingrédients uniquement en provenance des marais et des miasmes du 7e continent.
Love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature. At the end.
What that is, Dr. Maier?
I don't know, Luis.
Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl?
He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad.
I have never seen anything like this before.
Is it important?
Yes, I think it is. Very important.
I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted.
That's a very interesting point of view.
The creature from the Black Lagoon.
Il y a bien longtemps, un soir de pluie fine, une sentinelle marchait au bord de la douve Benki lorsqu'il entendit quelqu'un le héler derrière lui. Pensant qu'il s'agissait d'un enfant en train de se noyer, il tendit la main pour le sauver. Mais il était lourd comme un rocher et c'est la sentinelle qui faillit se faire entraîner dans l'eau. C'est là qu'il comprit qu'il avait affaire à un yokai. Il s'enfuit à toutes jambes. Il puait la pourriture au point qu'il aurait pu détruire l'odorat de tout le monde. On l'appelle généralement Kawataro, le gosse de la rivière. Il peut entraîner des enfants, des vaches ou des chevaux. Une fois ses victimes à l'eau, il leur retire les entrailles par le trou du cul, à ce qu'on dit. Dans certaines régions, il ravage les champs et vole des aubergines et des concombres, alors les habitants préfèrent lui vouer un culte et lui préparer des offrandes. Pendant l'ère Kyowa, un pêcheur attrapa Kappa dans le lac de Mito. Il mesurait un peu plus d'un mètre et pesait 45 kilos. En fait, 4 ou 5 kappas s'étaient laissés prendre dans les filets, mais tous les autres s'échappèrent sauf un qui voulut monter dans le bateau. Quand le pêcheur le battit avec un bâton, il poussa un cri de bébé et lâcha un P qui sentait tellement le poisson pourri que la puanteur resta dans le bateau pendant 2 ou 3 jours. Dans le Tohoku, de nos jours, encore beaucoup de gens affirment avoir vu Kappa.
Thank you.
Empruntons maintenant la machine à se cacher dans le temps. Ou plus simplement, traversons le miroir pour entrer dans ce paysage mythique à la rencontre du Jabberwock de Lewis Carroll, mis en onde par Claude Place et Yvo Malek en 1964. Et lorsque le Jabberwock confond les mots, bouscule les syllabes et détruit le langage, c'est tout un ensemble de particules de matière révulsées par un vent immatériel qui se déchaîne.
Le Jabberwock. Il briquait. Slictueux, l'étoffe girait, tes gimblets s'éloignent. Mimeuses étaient les borogoves. Et la molle race hors grippait. Mon fils, prends garde au Jabberwock. À ses crocs acérés, à ses griffes puissantes. Évite aussi l'oiseau jujube et le frumieux bandagrippe. Saisissant son glaive vorpal, il dépista longtemps cet ennemi manscar. Enfin, devant l'arbre totem, il s'arrêta pour réfléchir. Il pensait, d'ufuse manière. Quand le Jabberwock tout fit blanc par le bois tulgeait. Hurbulé férocement. 1, 2, 1, 2. De part en part, l'épée vorpale l'outreprit. Tout mort, il le décapita. Et rentra galonfant. As-tu oxy le Jabberwock? Viens dans mes bras, rayonneux rejeton, ô jour frabieux, callo, callaï, cortula-t-il ravi. Il brille gai, slictueux l'étoffe girait et jimblait sur les loignes. Mimeuses étaient les borogoves. Et la molle race hors grippait.
Thank you. Là encore, on voit pas rien.